Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Il y a ceux qui ont classé des photos et revisité leur vie, rangé leurs placards et meublé leur solitude, ceux qui ont tué le temps et ceux qui en ont gagné, ceux qui ont vu pousser les pivoines comme en time-lapse, ceux qui ont connu leurs voisins, organisé des concerts dans leur cour. Il y a ceux, trop nombreux, qui ont souffert à l'étroit ou à l'aise, ceux qui ont transgressé les interdits, ont fait des dîners et des apéros, ceux qui ont été malades, bien sûr, ou en deuil. De tout cela, on a déjà parlé dans plusieurs épisodes des Pieds sur Terre, hashtag histoire de confinement, devenu un genre comme les récits de rêves, de services militaires ou de guerre pour nos aînés. Des récits emblématiques concernant des moments d'histoire collective. Et puis, il y a tous ceux qui ont réalisé quelque chose qu'ils ignoraient. Libération en a publié une jolie collection, des courtes prises de conscience comme celle-ci. Cet après-midi, en essayant de faire du diabolo, j'ai pris conscience que je n'arrivais pas à prendre mon temps. Je suis en arrêt maladie depuis le 27 janvier, j'ai repris le 7 mars et me suis arrêtée à nouveau le 15. Malgré tout, j'étais incapable de consacrer du temps à une activité sans le compter. Alors cet après-midi, j'ai fait du diabolo jusqu'à le lancer et le rattraper correctement, sans me demander si j'avais le temps ensuite de me balader, faire une pizza, de la peinture ou autre, sans compter mon temps. Élise Andrieux, productrice bien connue des Pieds sur Terre pour sa sensibilité, son obstination, son talent, en somme, a senti elle aussi que pour certains, pendant le confinement, quelque chose s'était ouvert, avait grandi en eux, des sensations, de l'amitié, de la vérité ou de la joie qui entraient dans leur vie. Elle a donc cherché et trouvé pour vous quelques histoires qui racontent comment ces vies minuscules, nos vies rétrécies pendant le confinement, s'étaient parfois transformées en un nouvel élan. On les écoute tout de suite dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Jules, j'ai 17 ans, je suis actuellement en classe de terminale et donc je vais passer mon bac. Donc j'habite pas loin de Grenoble, dans un petit village avec la forêt tout proche. Alors le premier jour où j'ai su qu'on allait être confiné, j'étais en pleine composition de concours général de philosophie. Il y avait presque plus personne dans le lycée et ce qui est assez marrant, c'est que j'étais tout seul à passer le concours. Et donc, on se rend compte pendant cette période de confinement des personnes que l'on aime et qui nous aiment en retour. Donc, j'ai entretenu assez rapidement une correspondance avec une amie, avec qui j'étais en anglais, en seconde, qui part peut-être sa simple présence ou son attitude me faisait sentir bien et me rendait joyeux. Même si j'ai pas eu le courage de lui parler quand j'étais en seconde, j'ai pas ressenti le besoin en fin de seconde ou en première, début terminale aussi, d'aller vers elle. Et c'est juste avant le confinement que je me suis dit « Ah, c'est la fin du lycée, ça serait bien qu'elle sache que je tiens un peu à elle, et enfin même beaucoup. » Mais c'est dur à dire, c'est toujours... je lui avais envoyé une rose en seconde, mais j'avais pas signé. Alors elle s'est demandé de qui ça venait, et j'en avais un peu parlé à quelqu'un de ma classe en première, et qui lui a dit que c'était moi en seconde pour la rose. Et après, elle a pas essayé non plus de son côté à venir me parler, parce qu'elle pensait que ça a été juste passager de mon côté. Et donc j'ai fait un peu le premier pas en terminale en lui écrivant une lettre, mais comme il y a eu confinement, j'ai pas pu lui donner cette lettre, et donc j'ai recopié la lettre par message, et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle voulait depuis un an et demi, deux ans me parler. Elle avait envie de me connaître un peu plus, et donc voilà, ça a commencé comme ça. Le premier message, c'était un peu une déclaration. Chaque soir, à partir de 21h, on s'évadait avec de la poésie, avec cette ambiance un peu tamisée du soir, un peu dans la brume. C'était comme si on partait en voyage ensemble, comme s'il n'y avait plus de barrière du confinement. Et après ces instants de poésie un peu à tout va, un peu désorganisés, il y a eu au fil du confinement une place de plus en plus importante laissée au silence et à la réflexion. Et j'avais vu pendant le confinement Paris, Texas. J'adore ce film parce que pour moi, il représente tout ce processus de partir du silence, partir du vide pour construire quelque chose. Travis, le héros dans le film, arrive sur une scène de désert et de silence. Petit à petit, il y a la présence de la ville et des autres. Et voir ce film pendant le confinement, Paris, Texas, ça m'a fait comprendre que peut-être que j'étais un peu trop dans ce désert, un peu trop dans ce silence. Et le film ne pouvait pas avoir lieu dans ce désert et ce silence. Il fallait obligatoirement d'autres protagonistes dans ma vie pour remplir un peu ce vide et modeler ce silence. Et donc ça a commencé au début par un contact avec cette correspondance. Mais pourtant, en fait, c'est là où la conversation a tourné, parce que on a commencé à plus réfléchir à ce qu'on disait, et ça se rapprochait plus de joutes oratoires à l'écrit. Et pour avancer son point de vue, c'était plus scolaire, en fait. C'était comme si l'autre allait nous donner une note. Et donc, on se disait que quand on allait se revoir, on avait peur de ne pas savoir parler. On est assez timides, tous les deux, et on avait peur de ce qu'allait penser l'autre, à chaque fois. Et ça nous a finalement éloignés. Je n'ai pas toujours été solitaire, mais je l'ai été après la quatrième, où une mauvaise expérience amicale m'a fait perdre confiance en de vrais amis, parce que c'était de vrais amis que j'avais depuis la maternelle jusqu'au milieu du collège. J'avais trois de mes meilleurs amis avec moi dans ma classe souvent. Et à l'âge de l'adolescence, on fait souvent plein de bêtises, etc. Et c'était pas de la grosse délinquance, mais ça n'avait pas lieu d'être dans un petit village de montagne, quoi. C'était un peu en décalage, quoi. Ils ont voulu aussi entraîner une partie de la classe, et c'était des personnes influentes et qui entraînaient tout le groupe vers le mauvais chemin, quoi, tout simplement. Et moi, je leur ai dit à un moment non-stop, arrêtez de montrer à chaque fois le mauvais exemple parce que ça peut être dangereux pour la classe. Et là, ils m'ont dit oh, laisse-nous. Soit jeune ou des choses comme ça, et ils m'ont mis un peu la classe, toute la classe à dos. Et donc j'ai passé la fin de la quatrième avec un peu toute la classe contre moi, et j'ai ressenti cette période de la quatrième comme une trahison, et j'ai perdu toute confiance en une réelle amitié. Et donc je me suis un peu refermé sur moi-même, et il y a eu comme un blocage à partir de ce moment-là qui m'a un peu handicapé dans les relations avec les autres. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai découvert la nature et ce qu'elle pouvait m'apporter. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé ma voie, je vais rester dans la nature, je serai que avec la nature. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la volonté de me construire moi-même et sans l'aide des autres. Et il y a une phrase assez connue d'Emerson, donc dans son essai « La nature » qui date de 1836, qui dit « Je deviens un globe oculaire transparent. Je ne suis rien, je vois tout. » Et c'est finalement une relecture d'Emerson et d'une philosophie du 19e siècle qui m'a permis de saisir le lien précieux qu'on entretenait avec cette nature et qu'il fallait préserver. dans la construction d'un soi solide. Au tout début, moi, quand je faisais mes premières marches en forêt, j'avais l'impression que la nature ne m'apportait rien, puisqu'elle ne pouvait pas parler. Mais quand on y fait bien attention, on trouve une réponse, que ce soit dans le vent à travers les feuilles ou le chant de l'oiseau. La nature a une capacité de compréhension énorme. Elle est toujours là pour moi et j'ai peut-être voulu, pendant le confinement, peut-être remplacer en partie les chants des oiseaux et le vent dans les feuilles par un contact humain et quelqu'un qui ne pense pas forcément comme nous. Et donc, je me suis dit, tu n'as pas d'amis de lycée comme tout le monde a avant d'être majeur. C'est assez malheureux. Et il y a peut-être une bonne raison à avoir des amis de lycée. Et donc, il y a eu cette volonté, tout d'un coup, d'aller vers l'autre. Et donc, ça a commencé au début par un contact intellectuel avec cette correspondance. Et puis, au déconfinement, est venu le contact physique avec des soirées avec les amis, et c'était très sympa, voilà. Et donc c'était aux alentours du 20 mai, donc environ une semaine après le déconfinement. Il y avait des personnes avec qui j'entretenais une relation plutôt basée sur la simple connaissance, mais sans plus. Et j'ai eu envie d'approfondir ces relations pour les muer en amitié. C'était un copain qui organisait une soirée bivouac, et donc on m'a mis dans le fil de discussion, et là j'ai pu dire que j'étais partant pour faire ça, puisque ça tombait à pic. Et donc on était sur les hauteurs de Grenoble, et on avait pris trois tentes, on était neuf, on partageait tout, on a mangé ensemble, il y avait de la musique, on partageait vraiment, il y avait cette notion de partage. Et cette soirée a changé beaucoup de choses, parce que j'avais peur de paraître ridicule en racontant mes expériences de marche ou d'osmose avec la nature. Et comme j'ai vu qu'il y avait un respect mutuel, ça m'a mis en confiance. Donc on a pas dormi de la nuit. Et à 5h30 du matin, on est parti avec une amie voir le lever de soleil, magnifique. C'était un peu un moment de méditation. On était séparés l'un de l'autre environ de 20 mètres. Et dans le silence. Ça a duré, je pense, un quart d'heure. J'ai tout de suite pensé une nouvelle fois à Emerson. En fait, je voyais pas forcément plus loin, je voyais un grand tout. Je voyais l'arbre qui faisait partie du paysage, je voyais l'oiseau qui faisait partie du paysage, le soleil qui faisait partie du paysage. Et tout ça formait un grand tout. Et c'était peut-être métaphoriquement le grand tout de toute une vie. J'ai comme eu le ressentiment d'être vivant à ce moment précis, à 5h30 du matin, avec le vent frais et avec cet ami. Et ça m'était pas arrivé avant. Moi, j'ai ressenti en tout cas que je devenais transparent, comme le globe oculaire transparent d'Emerson. C'était le moment parfait.
Je m'appelle Anna, j'ai 22 ans, j'habite dans Paris Nord. Je suis en troisième année de littérature, licence lettres, dans une fac parisienne. J'ai un job à mi-temps à côté. Donc je travaille dans un grand magasin du centre de Paris. Et l'histoire que je vais vous raconter commence avec le début du confinement. Je me rappelle que ce jour-là, j'étais au travail. Et à l'heure de la fermeture dans le grand magasin, on a des sortes d'haut-parleurs qui parlent toute la journée aux clients et parfois aussi aux employés. Et donc la voix nous dit qu'à partir d'aujourd'hui, le magasin restera fermé pour une durée indéterminée. Et donc on était censé rentrer chez nous et ne pas revenir le lendemain. Donc je rentre chez moi et donc c'est là que tout commence. C'est le lendemain du coup que je suis partie chez mon copain. En fait, j'étais pas censée rester longtemps. J'ai pris vraiment quelques vêtements à peine, dans l'idée de rester vraiment un, deux jours, quoi. Alors, mon copain vient d'Asie et on se fréquentait depuis septembre 2019. Je suis très amoureuse, tout se passe pour le mieux entre nous. Et voilà, c'était vraiment... Enfin, tout se passait pas pour le mieux. On avait quand même quelques soucis auparavant, mais enfin, je viens dans l'optique... de renforcer notre relation et de confirmer nos sentiments mutuels. Donc les premiers jours se passent bien. Enfin, c'était vraiment idyllique, c'était vraiment parfait. Je sais pas à partir de quand, mais il y a un moment où forcément les problèmes qu'on avait avant le confinement ont commencé à refaire surface pendant le confinement. Et ça a commencé à créer de grosses disputes. Et en fait, au final, c'était à peu près une fois toutes les semaines, on avait une grosse dispute en fait. Et c'était toujours la dispute qui remettait tout en question. On avait un problème de confiance. Enfin, moi, j'avais un problème de confiance envers lui car... c'était pas forcément la personne la plus honnête du monde. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'il m'avait trompée par le passé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait pas été honnête. Et donc, on a eu des discussions, mais vraiment très profondes, et des discussions d'adultes où je lui ai dit clairement ce que j'attendais de lui et ce que je pensais, etc. Et donc, ça prouvait que la plaie était toujours ouverte. Et en fait, ça prenait de plus en plus d'ampleur, et à chaque problème qu'on rencontrait, moi, j'avais tendance à lui dire je rentre chez moi dans ces cas-là, je veux pas rester ici, c'est pas possible. Et lui disait non, rentre pas. Et il me disait qu'il m'aimait, qu'il aimait que moi, que je m'en faisais pour rien, que voilà, ce genre de choses quoi. Et voilà, avec le temps ça s'est empiré, j'étais paranoïaque, et du coup fallait que je regarde dans son téléphone pour voir s'il y avait des choses. Des fois, c'était même sans faire exprès. Hein. J'utilisais par exemple son ordinateur pour faire mes partiels, etc. Et je tombais sur des choses que je voulais pas voir ou qui n'avaient pas lieu d'être là, en fait, tout simplement. Avec le temps, ça devenait vraiment de plus en plus dur. Et en fait, mentalement, ça allait vraiment pas. Et ça se déclinait physiquement. En fait, c'était tellement de stress et d'anxiété que vraiment, j'avais vraiment très, très, très mal au ventre. Enfin, c'était horrible. Des fois, je pouvais pas manger. Pendant des jours, je vomissais, par angoisse. C'était de la peur, mais pure. Ouais, j'étais vraiment paralysée par la peur, paralysée par l'angoisse, paralysée parce que, enfin, j'avais jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit, oh mon Dieu, enfin, c'est vraiment la première fois que je suis amoureuse, pour de vrai en tout cas, et je veux pas perdre ce sentiment parce que là, j'ai l'impression que je me lasserai jamais de cette personne. Alors je pourrais rester avec elle des décennies, je m'en lasserais pas en fait. Et je restais et j'avais l'impression d'être là-bas depuis une semaine et ça faisait déjà un mois. Et du coup, on en est venu à se dire que je partirais le jour du déconfinement. Le jour du déconfinement est arrivé et j'étais censée partir. Donc j'allais partir de chez lui et en fait je me suis rendu compte que je devais acheter de la litière pour mon chat juste avant de partir. Et comme j'allais partir de chez lui assez tard, je me suis dit je vais l'acheter maintenant et comme ça genre je reviens et ensuite je partirai directement chez moi en Uber. Et en fait, lui, il me demande où je suis et je lui ai fait la blague. Je lui dis, je suis déjà partie, etc. Après, il me dit, mais t'as oublié tes affaires et tout. Je dis, mais soit grave, je les récupérerai demain. Alors, c'était une blague. Hein. Et donc, du coup, je vais pour acheter les trucs dont j'avais besoin, etc. Ça me prend à peu près une heure, je pense. Donc, il doit vraiment penser à ce stade-là que je suis vraiment partie. Et en fait, je voulais lui faire une surprise. Et donc, du coup, je reviens en catimini, vraiment, j'essaie de faire le moins de bruit possible, etc. Et je suis devant sa porte. Et je sais pas pourquoi, je bug, enfin, je fais rien, en fait. Et je reste devant la porte pendant, je sais pas, 10 bonnes minutes, comme ça. Et je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à bouger. Et en fait, mes bras et mes jambes commençaient à trembler, parce que forcément, quand on porte des courses, etc., c'est pas évident. Et j'étais obsédée par l'idée, mais qu'est-ce qu'il fait du coup s'il pense que je suis plus là? Et au moment où j'allais toquer, je l'entends au téléphone avec quelqu'un, un ami lointain de New York ou un truc comme ça. Vu que c'est des appartements parisiens assez vieux, on entend vraiment tout. J'écoute attentivement. Et en fait, il parle à son ami, et en fait, il parle de moi et d'une autre fille. Il commence à nous comparer, moi, l'autre fille. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, toutes mes peurs étaient avérées. Il disait, en gros, j'hésite entre les deux, je ne sais pas, avec Anna, j'ai une relation vraiment profonde, etc. Mais c'est justement, c'est l'impression que c'est un peu trop profond. C'est quelqu'un de très, très émotionnel, blablabla. Alors qu'avec l'autre fille, elle est vachement légère, c'est marrant, etc. En plus, je suis jeune, je sais pas quoi, Enfin, ce genre de choses, quoi. Et donc, moi, j'entends ça, je commence à rigoler un petit peu, mais parce que je me dis, c'est une blague, ça doit être une caméra cachée, je sais pas, c'est pas possible. Enfin, j'ai pas pu attraper la main dans le sac aussi facilement. Et le jour du déconfinement, en plus, il a attendu quoi, une heure après mon départ, pour retourner à ses activités, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, mais c'est une blague. Il doit savoir que je suis là, il fait exprès. C'est pas possible. Et plus j'entends la conversation, plus je me dis, mais c'est réel, ça. C'est en train d'arriver, là. Et enfin, j'ai vraiment une absence, en fait. Et j'ai l'impression d'être hors de moi. Et donc, du coup, je commence à taper à la porte, mais hyper fort. Et je dis en pleurant, ouvre, je veux juste récupérer mes affaires. Et à ce moment-là, bah, j'imagine que... qui sait très bien que j'ai entendu. En fait, il y a un gros blanc, il répond pas, il veut pas ouvrir la porte. Et donc là, je commence à vraiment taper sur la porte comme une folle, en pleurant, en disant « mais ouf, je veux juste récupérer mes affaires, blablabla ». Enfin, il ouvre la porte, du coup, et là, ça part en cacahuète. Il n'avait pas grand-chose à dire, et donc c'était juste lui, muet, assis sur une chaise, et moi en train de me vider, en fait, de tout ce que j'avais sur le cœur, enfin, toutes les souffrances que j'avais endurées avec lui, etc. Je me suis dit, mais en fait, j'ai fait tout ça pour rien, et ça, j'étais folle de rage. Mais c'était pas que de la rage, c'était de la tristesse, c'était de la souffrance, c'était vraiment... je sentais que mon cœur était vraiment... prise en mille morceaux, et c'était la première fois que je ressentais une telle souffrance. Et donc je reprends toutes mes affaires. La veille, je crois, ou deux jours auparavant, il m'avait offert des fleurs, je les déchire. Il n'avait aucun... Et je lui ai demandé plusieurs fois, est-ce que t'as des remords? Il n'en avait aucun. Aucun, vraiment aucun remords. Il se morfondait pas, il avait... Vraiment, j'essayais de comprendre, je ne comprenais pas. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne passe pas deux mois et demi avec elle, 24 heures sur 24, ça n'a pas de sens. On peut pas rester H24 avec quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est pas possible. Et je suis sortie et en fait, je marchais... j'étais en train de pleurer, mais vraiment... comme j'avais jamais pleuré. En fait, je pleurais comme un enfant. La bouche ouverte... tout le manque de confiance, les insécurités, les problèmes... Enfin, tout était ressorti et donc du coup, bah, je marchais un peu sans but, comme ça, bah, à côté de son appartement et... Et je voulais pas rentrer chez moi parce que je me sentais tellement honteuse, enfin, humiliée. Je marchais près d'un pont, je crois. Et enfin, du coup, il y a la Seine qui passait par là. Et je regardais la Seine et je me disais, mais enfin, si j'avais le courage, je me serais jetée. Hein, vraiment, mais bon, après, c'était... Vu que j'ai peur de l'eau, je me suis dit non, quoi. Mais... Et ensuite, enfin, je le vois du coup arriver au loin. Je me dis, mais c'est une blague. Enfin, qu'est-ce qu'il veut encore? Et donc là, j'appelle un taxi. Et... Mais du coup, il attend le taxi avec moi parce que j'imagine qu'il a peur que je me tue. Enfin, j'en sais rien. Mais... Le taxi arrive. Moi, j'étais vraiment... Enfin, lui, il a essayé de me faire une accolade, un câlin. Enfin, je sais pas trop ce que c'était. Et moi, j'étais en mode, mais... Comment c'est possible d'être aussi à côté de la plaque? Je comprends pas. Enfin, là, je voulais vraiment plus être en sa présence, en fait. Je pouvais plus supporter d'être à côté de lui, de respirer le même air que lui. Enfin, vraiment. Et donc, je prends un taxi, j'arrive chez moi en lambeaux, vraiment. Ma mère me voit, ma soeur me voit, vraiment. Ils comprennent directement que je vais pas bien et que va falloir me ramasser la petite cuillère. Franchement, j'avais jamais souffert comme ça. Hein. Enfin, c'était vraiment tellement fort que pendant quelques semaines après le confinement, j'étais complètement morte, hein. Enfin, intérieurement. J'étais, pour moi, il m'avait tuée en fait. Et je sais que c'est quelque chose qui me suivra longtemps. Enfin, en tout cas, qui influencera mes futures relations. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je veux pas faire ma vie en fonction de quelqu'un d'autre. Je veux plus. Ça n'arrivera plus jamais. Je pense plus que je ferai confiance à quelqu'un. Je placerai plus une confiance aveugle en quelqu'un d'autre que moi. Parce que, au final, dans la vie, on apprend qu'à se connaître soi-même. Hein. On peut être avec quelqu'un, même dans un 10 mètres carrés. Enfin, 24 heures sur 24, pendant 2 mois et demi, ça changera rien, en fait. Enfin, c'est ça qui est fou. Hein. On pourra jamais être à l'intérieur de la tête de quelqu'un. C'est impossible. Enfin, c'est ça qui est effrayant, je trouve. En fait, ça me fait penser aussi à le monologue. C'est dans la pièce de théâtre « On ne badine pas avec l'amour », je crois, de Musset. Il y a un monologue assez connu du personnage de Perdican. Je mettais un peu partout sur les réseaux sociaux. C'était en gros, on est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Voilà, et je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment toujours touchée. Et je me dis qu'au moins, moi, j'ai vécu pleinement et j'ai souffert et j'ai été trompée, mais j'ai vécu pleinement et je sais que si pour mon ex-copain, c'était pas réel, pour moi, ça l'était et j'en suis fière.
C'était Des vies minuscules, le confinement, un nouvel élan. Reportage d'Élise Andrieux réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Jules, à Anna et à Augustin Leroy, ainsi qu'à Camille Richir, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et à Sarah Djiriwi.